Je prends les applaudissements pour moi. Hein. Je le prends pour Bertrand Hagenmüller, qui est réalisateur de ce film. C'est son troisième film. Le premier était Prendre soin. C'est un film qui est accessible à tous, donc je vous invite à le regarder. C'est un superbe film. Alors voilà, je vais vous parler de l'aventure. Donc moi, je suis le docteur Joitel, comme on m'a présenté. Je suis gériatre, je m'occupe des patients malades d'Alzheimer, maladie apparentée, en tout cas des patients cognitivement atteints depuis plus de 15 ans. Voilà, je connais Bertrand Hagenmüller depuis plusieurs années. Il part sur ce projet de film, un projet complètement fou. Il me dit, du coup, Laure, on va partir avec des malades de nos EHPAD et puis on va aller faire une résidence théâtrale. Complètement fou, pourquoi ? C'est pas tant la résidence théâtrale, c'est complètement fou parce qu'on allait vivre en plein milieu de la Bretagne. Alors pour les Niçois, ça fait peur, mais globalement, on est capable de vivre en Bretagne. Déjà, c'était en Bretagne, il pleuvait, et puis c'était en mois de septembre, donc autant dire. Alors c'était pas ça qui était que fou, c'était surtout dans un manoir. Alors c'est pas tant le lieu qui était magnifique, mais le manoir, ça sous-entendait quoi ? Ça sous-entendait un lieu complètement désinstitutionnalisé. Donc les résidents venaient des EHPAD, hein, c'est des patients atteints de maladie d'Alzheimer qui viennent de l'EHPAD, qui vivent en EHPAD et qui vont aller vivre dans un espace complètement atypique, avec des escaliers, des toilettes au premier étage, des lits qui ne sont pas médicalisés, enfin voilà, on sortait du soin. Donc c'était ce premier challenge. Et le deuxième challenge, c'était de vivre ensemble. Vivre ensemble, ça voulait dire qu'en fait, les soignants sont venus, mais aussi avec des artistes. On avait une poétesse, on avait un prof de théâtre, on avait des musiciens. Et puis, on avait des soignants qu'on dit, des professionnels qu'on dit, moi, je viens avec ma femme et mes enfants. Enfin, voilà, bon, globalement, une histoire un peu folle. Donc, c'est tout l'idée du film. Donc, ce film, il n'est pas encore sorti. Il sortira en 2024 dans les grandes salles, donc cinéma. Ça s'appellera Les Esprits Libres. Je vous invite à aller le voir. C'est un film magnifique, fabuleux, non pas sur l'impact théâtral, mais plutôt sur la maladie. Et c'est très pédagogique dans le rapport aux malades et comment on communique avec eux. Donc moi, je suis plutôt médecin. Hein. Du coup, je ne suis pas du tout ni comédienne, ni chanteuse, ni poétesse. Pour le coup, je ne pouvais pas donner vraiment mon expertise dans cette expérience, si ce n'est que j'ai dit, attends, il faut sortir quelque chose de ça, parce que ce qui m'intéresse au plus haut point, c'est de me dire, on n'arrête pas de questionner les lieux de vie de nos malades. Alors en domicile, avec parfois l'échec du domicile, l'entrée en EHPAD qui est vécue comme un échec, l'EHPAD bashing où tout le monde dit, il faut repenser nos EHPAD. Je me suis dit, c'est l'occasion de se poser des questions, de re-questionner l'ensemble de nos organisations. Alors je te propose de t'accompagner dans ce projet, non pas en tant que protagoniste du film, mais en tant que meneuse de projet. Donc en fait, on a mené un projet d'étude avec les patients qui sont partis. On avait trois questions en fait. On avait la question de, au bout de 15 jours d'expérimentation, comment vont les malades ? Est-ce qu'ils vont mieux ? Dans un contexte complètement déshumanisé du soin, enfin invisible de soin et surtout réhumanisé. Comment vont les professionnels ? Est-ce que le fait d'être en blouse blanche, de tutoyer, d'aller faire du théâtre avec les résidents, d'être vraiment en vie collective avec les enfants qui couraient partout, est-ce que finalement c'est un lieu pour les professionnels dans lequel ils se sentent mieux ? Et puis surtout la question que je me posais, c'était de dire, est-ce que demain ça nous donne des pistes d'exploration sur les pattes de demain ? On n'arrête pas de parler des pattes de demain, mais enfin finalement c'est aujourd'hui. Est-ce qu'on doit réformer nos EHPAD, repenser nos EHPAD, nos modes d'accompagnement ? On parle beaucoup des accompagnements des habitats alternatifs, hein. Donc c'était explorer le possible dans l'accompagnement. Donc voilà, je les ai rejoints les 5 derniers jours du tournage. C'était complètement fou comme film. Et encore une fois, je vous invite à aller le voir. Ça, c'est de la méthode. Je passe très vite. En gros, comment on fait pour mener une étude ? Donc, vous avez vu, toute l'après-midi, on a parlé des études de médicaments. On fait un groupe témoin et un groupe qui a un médicament et l'autre qui n'en a pas. Et puis, on compare les deux bras. Nous, on ne pouvait pas vraiment faire ça parce qu'on n'allait pas... donc on n'a pas de groupe contrôle et puis on a finalement très peu de résidents parce qu'il n'y en a que 9 qui sont partis. Donc on s'est dit, on va faire des échelles d'évaluation sur leur qualité de vie. On va évaluer leur qualité de vie avant, pendant, après. On va évaluer leur comportement avant, pendant, après. On va évaluer leur traitement avant, pendant, après. Donc ça, c'est des échelles très mécaniques, hein, c'est assez simple. Mais je me suis dit, si on fait ça, on va passer à côté de l'essentiel, en fait, l'essence même de la relation humaine. Et donc, adossée à cette étude, en fait, moi, je suis allée là-bas, sur place, pour interroger en entretien semi-directif. Donc, j'ai enregistré les interviews avec les malades. Donc, j'ai interviewé l'ensemble des malades, les professionnels, mais également les artistes, sur ce qu'ils venaient de vivre comme expérience. Parce que j'avais besoin d'avoir du jus de cerveau, finalement, enfin, du jus d'émotion. Qu'est-ce qui s'est joué là, qu'on pourrait reproduire demain dans nos EHPAD ? Donc, première question, il y a trois questions. Je vais essayer d'être rapide. Première question que je me suis posée, qu'on s'est posée avec le pôle recherche, c'est est-ce que dans ces conditions de vie en collectivité, en dehors de l'EHPAD, à faire du théâtre, de la musique, du poème à longueur de temps, parce qu'ils ont fait que ça, en fait. Ils ont fait qu'une résidence d'artiste, du matin au soir. Est-ce qu'ils vont mieux? C'est la première question. Donc déjà, on leur donne la parole aux résidents. Comment vous vous sentez? Et là, c'est assez impressionnant. Alors, je vais passer très, très vite, hein, mais la parole, c'est ici, c'est un lieu vivant. Je suis comme à la maison. Moi, je suis pas malade. Je sens que ça me fait du bien. Enfin, globalement, les résidents disent, moi, je vais bien. Les soignants, quand on les interroge sur comment vous sentez les malades, comment vous les percevez? Et les soignants, ils disent, mais rien à voir, en fait. Il n'y a pas la froideur institutionnelle du lieu. En fait, on a l'impression qu'ils vont beaucoup mieux. C'est comme une famille. On ne les considère plus comme malades. Il y a une certaine appartenance. Je n'ai pas ma blouse, je ne suis pas soignant, mais en face, j'ai des personnes et je n'ai pas des malades. Et vraiment, ils sont comme chez eux, ils vont bien. Quand on interroge les artistes en disant, d'après vous, comment ils vont, ces malades? Les artistes, en fait, ils sont indemnes de tout soin. Ils ne connaissent pas la maladie. Ils sont arrivés ici dans ce projet pour un film. Donc au début, je leur avais dit, est-ce que vous voulez que je vous forme un peu sur la pathologie? Je forme quand même depuis 15 ans. Et le réalisateur m'a dit, non, surtout, tu ne les formes pas. Bon, ok, d'accord, bah, si tu veux, je ne les forme pas, mais peut-être qu'ils vont faire des choses. Et finalement, ces artistes, en fait, ont parlé de leur art. Ils ont dit, finalement, la musique, le théâtre et tout ça, ça permet l'ancrage dans l'instant présent, et les malades ont besoin de ça. Être en improvisation en théâtre, ça permet d'improviser, et finalement, c'est ce que fait le malade à longueur de temps. Le malade et les professionnels improvisent à longueur de temps. C'est-à-dire qu'en face, je ne sais pas si vous êtes probablement habitué à être dans le rapport au malade. Le malade, il va oublier où il est, il ne vous reconnaît pas parfois. Et du coup, on va improviser dans la relation. Et donc, l'improvisation, ça a été vraiment l'immédiateté du moment présent. Donc, les artistes, fondamentalement, ils sont certains que l'art qu'ils ont proposé leur a fait du bien. Donc là, après, on passe dans l'échelle un peu plus scientifique. Hein. On va évaluer avant. Donc, ils ont été évalués un mois avant le départ. On a fait ces échelles à la fin de l'expérimentation et on a évalué un mois après le retour dans l'EHPAD. Donc là, c'est des échelles de qualité de vie. Donc vous voyez, globalement, il n'y a pas de secret. Hein. Globalement, en dehors de l'EHPAD, dans ce lieu complètement atypique, ils vont beaucoup mieux. Se pose la question du retour hein, sur les échelles. Sur le plan comportemental, comment vont les malades ? Sur le plan comportement, on a une grille des NPIES. Enfin, vous ne connaissez peut-être pas cette grille, mais c'est une grille qui évalue le nombre de comportements, la fréquence, la gravité. Enfin, c'est très institutionnel. On a fait un mois avant, pendant, après. Finalement, de la même manière, sur le plan comportemental, on a des résultats significatifs. Significatifs dans les études médicales, enfin, les études scientifiques, ça veut dire que les résultats qu'on obtient ne sont pas liés au hasard. Ils sont clairement liés à l'intervention. Donc on a une diminution nette des troubles comportementaux. Ce qu'on appelle les troubles comportementaux, c'est l'agitation. Enfin, c'est ceux-là qui ont diminué. Ils sont moins anxieux, ils sont moins agités, moins désinhibés, moins irritables. Donc globalement, ils vont mieux sur le plan comportemental. Sur le plan traitement, globalement, on n'a pas changé les traitements, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de médecin pour changer les ordonnances, hein, à part moi. Puis j'allais pas, en fin de séjour, diminuer tous les psychotropes. Mais globalement, il n'y a pas de changement de traitement, sauf que certains traitements sont parfois, je ne sais pas si vous savez, donnés en six besoins. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas tout le temps, mais quand il y a besoin, on leur donne. Les six besoins n'ont pas été donnés pendant cette expérience. Et puis, sur la santé globale, on a quand même évalué leur morale. Il est légèrement mieux pendant l'expérimentation. Une diminution du nombre de chutes, et ça, c'est majeur. Parce qu'on est tous arrivés là-bas en tant que professionnels, avec nos regards de professionnels, en disant, laisse tomber, c'est pas possible. Le lit, il est trop bas, ils vont tomber, il y a des tapis partout. La luminosité n'est pas bonne, les toilettes sont au premier étage, les hauteurs de marche sont à hauteur variable, enfin, c'est-à-dire que c'est du vieux manoir du 17e, et que du coup, on s'est dit, c'est tout ce qu'un ergothérapeute pourrait nous dire, c'est pas possible. Donc là, on était dans un lieu de vie complètement libéré, complètement ouvert, hein, j'ai oublié de dire, hein, ce manoir, vous avez vu, il y a un grand champ devant, il y a une forêt, donc il ne s'est pas fermé, donc bien sûr, il n'y avait pas d'unité fermée, il pouvait sortir comme il voulait, d'ailleurs, on a un des résidents qui est sorti plusieurs fois du manoir, qui est allé se balader dans... Ça se passe à Loctudy, pour ceux qui connaissent la Bretagne. Donc voilà, donc, globalement, ils chutent moins, bizarrement, dans un environnement qui n'est pas sécure. Bon, c'est quand même intéressant. Sur le plan nutritionnel, il n'y a pas de modification. Alors, moi, j'avais l'impression. Et surtout, c'est un résultat qu'on ne comprend pas, sur le plan de l'autonomie. En fait, il y a une diminution de l'autonomie au cours des mois. Mais on n'a pas d'amélioration, alors que ça va à l'encontre de ce que les soignants disaient, les artistes, en disant... Finalement, là-bas, je me suis rendu compte qu'ils étaient capables de plein de trucs, ce qu'on ne fait pas faire à l'EHPAD. Donc, plutôt des bons résultats. Deuxième question qu'on s'est posée, c'est comment vont les salariés, les professionnels? Est-ce que dans ce milieu-là, ils ont un accomplissement professionnel plus important? Donc là, on leur donne la parole. Je passe très vite, hein, parce que j'ai probablement pas le temps, mais ils expliquent qu'ils avaient une espèce d'hypervigilance, parce que de peur qu'ils tombent, hein, du coup, ils vont tomber. Ils expliquent que c'était super, il n'y avait pas de chef. Ils expliquent que c'était super, il n'y avait pas de planning. Mais par contre, ils expliquent quand même, on a quand même été obligé de mettre des repos de garde. Donc en fait, on voit que cette société, cette micro-société s'est organisée un peu comme à l'EHPAD. Ils ont été obligés de mettre des agendas et des plannings. Parce que moi, quand je suis arrivée chez eux, ils avaient des cernes comme ça, ils n'en pouvaient plus. Et ils ont dit, on n'avait pas réfléchi que des nuits blanches comme ça, assumées derrière des journées, ce n'était pas possible. Donc globalement, ils ont recréé une vie un peu institutionnelle. Mais bon, en tout cas, l'hypervigilance, ce qu'ils disent quand même... c'est que bah, y avait pas les réunions, le staff, les résidents, tout ça. Mais par contre, on faisait des gros débriefs en fin de journée, à 22h, quand tout le monde était couché. Le gros débrief de la journée, comment va monsieur un tel? Est-ce qu'il a pris ses médicaments? Est-ce qu'il a bien mangé? Voilà, donc ils sont restés professionnels, mais avec moins de réunions et beaucoup plus de temps passé auprès des malades. Et puis surtout, ce qu'ils disent, c'est... C'était juste génial parce qu'on a changé notre rapport aux malades. On n'était plus malades, on avait un sentiment d'appartenance. C'était plus des collègues, c'était une équipe, une famille. C'était plus des malades, c'était les membres de la famille. Et on avait l'impression d'avoir une vraie vie en collectivité. J'oublie de dire qu'il y a deux professionnels de l'EHPAD qui sont venus avec leur conjoint, donc leur femme, leur épouse et leur enfant. Donc Pia, une petite, qui avait 2 ans et demi au moment du film, et qui, elle, a été le médicament, Pia, le médicament de tous les malades. C'est-à-dire que Didier, quand il partait, Didier retrouvait son épouse ou sa maman et qui sortait dans le bourg de l'Octudi. Pia arrivait, elle donnait la main à Didier, elle disait « Didier, on rentre ?» Oui, on rentre. C'est aussi simple que ça. Donc du coup, il y avait de l'intergénérationnel, comme on dit aujourd'hui, on vend de l'intergénérationnel à mettre des crèches un peu. Mais là, ce n'était pas du fake, on était vraiment dans une vie familiale. Donc de la même manière, hein, les soignants, ils ont eu des échelles. Au-delà que j'ai enfin, il y avait l'interrogatoire hein, enregistré, tout ça, on a eu plus de 7 heures de témoignages. Il y a eu des échelles avant, pendant, après, hein, de la même manière. Et on a utilisé l'échelle de Karasek, c'est une échelle d'évaluation de l'épuisement professionnel des professionnels, enfin des professionnels des soins. De la même manière, la question ne se pose pas. Donc cette échelle de Karasek, elle a trois thématiques: l'exigence mentale, la latitude décisionnelle et le soutien social. C'est quoi en très simple, le soutien social, c'est le sentiment que ses pairs, ses collègues sont soutenants. Donc c'est ce qu'ils exprimaient, une appartenance. Deuxième question, la latitude décisionnelle, c'est de dire, bah, c'est pas pyramidal, il n'y a pas un chef qui me dit ce que je dois faire. J'ai une latitude de décision et c'est plutôt bon. Et puis l'exigence mentale, c'est comment en tant que soignant, je trouve que mon job, il est exigeant. Comment la pénibilité de la tâche. Et globalement, en fait, on voit au cours de l'expérimentation qu'on a une amélioration. Moindre exigence mentale, une augmentation de la latitude décisionnelle et surtout un soutien social, avec deux résultats significatifs. Troisième question, je vais vite. Hein. Troisième question, c'était la dernière et la principale, parce qu'il y a plein de biais dans cette étude. Hein. On peut la critiquer comme on veut. De toute façon, l'idée, c'était pas une étude. Au départ, c'était un film. Donc moi, je suis venue me greffer. Donc on peut les biais de cette étude, c'est qu'à la fois, il y a que 9 résidents qui vont plutôt pas mal. On les a choisis, non pas pour l'étude, mais on les a choisis parce qu'ils adoraient le théâtre. Donc c'est déjà un gros biais d'étude. Mais je m'en fiche de ces biais. Parce que finalement, l'intérêt de cette étude que j'ai menée, c'était pas tant de montrer les résultats, parce que ça, on en était certain. C'était de se dire qu'est-ce que ça nous donne comme piste d'exploration sur nos EHPAD de demain. Parce que l'EHPAD, il y en aura toujours besoin. On parlait de l'augmentation du nombre de malades, l'augmentation du nombre de sujets âgés, de plus de 75 ans. Enfin, vous avez vu la loi du bien vieillir. Pas d'EHPAD demain, c'est pas possible. Des EHPAD, il en faudra. C'est pas un échec d'emmener son proche malade en EHPAD. Il faut pas le vivre comme ça, parce que parfois on est au domicile à défaut d'eux. Mais ça veut dire que peut-être les EHPAD ont des choses à modifier. Donc c'était ça qui m'intéressait dans l'étude. Donc à travers toute l'analyse semi-directive des 7 heures d'enregistrement, c'est ça que je suis allée chercher. C'est ça que je suis allée questionner chez les résidents, même si c'est compliqué. D'interviewer un malade qui a parfois des difficultés langagières, mais j'essayais à chaque fois d'être factuelle sur le lieu de vie, sur la liberté. Enfin, vraiment, on a essayé de questionner, et voilà ce qui est ressorti de ces questionnaires, et c'est ça le substrat dont il faut parler aujourd'hui, quoi. La première chose qui se pose à nous, qui s'impose à nous dans les EHPAD de demain, alors LNA Santé, mais pas que, hein, les EHPAD du National. Moi, je suis à la CNSA, au laboratoire des solutions de demain, où on réfléchit aux EHPAD de demain. Donc c'est une vraie question, ça. C'est quoi un lieu de vie? C'est quoi l'EHPAD de demain, le lieu de vie? Un lieu de vie, ça a bien une signification, c'est pas un lieu de soins. c'est un lieu vivant dans lequel il y a de la vie. Et en fait, il y a de la vie grâce à l'art, il y a de la vie grâce aux enfants, il y a de la vie grâce aux activités. Donc un lieu vivant. Avant tout, avant mettre du soin, est-ce que j'intervenais ce matin sur la formation, hein, et j'expliquais que quelle est l'importance de la relation aux malades, plus que les médicaments, quelle est l'importance du savoir-être, savoir-faire. Donc le lieu de vie, un lieu vivant, un lieu où il faudra rendre invisible le soin. La question des blouses blanches, est-ce que un malade, c'est pas très agréable d'être entouré que de blouses blanches. Est-ce qu'il faut rendre invisible le soin? Et puis la grosse question de la sécurité versus liberté. Nos établissements aujourd'hui sont sécurisés. On pense risque avant de penser liberté. Donc ça, c'est une vraie question. La deuxième question, c'est la question de nos EHPAD de demain. C'est une grosse question éthique. Alors les questions éthiques, c'est quoi? C'est plein de questions éthiques de liberté, d'intégrité, de vie affective. Enfin, j'en passe et des meilleurs. L'éthique, c'est quand ça tique. La question, c'est le droit des malades. Quel est le droit des malades en EHPAD? D'ailleurs, quel est leur droit à domicile? Parfois, c'est la question qui peut se poser. La question de la liberté, le consentement, la question d'appartenance et la question de la capacité. La capacité, j'insiste sur ce terme qu'on n'entend pas souvent parce que j'en ai marre d'entendre parler de la perte d'autonomie, de la dépendance ou du gain d'autonomie. La capacité, c'est les capacités restantes du malade qu'on ne met jamais en avant. Et là, l'expérience, elle a montré, et les soignants ont été d'une humilité irréprochable en disant « on s'est planté, en fait ». On ne s'est même pas rendu compte qu'ils étaient encore capables d'eux. On est allé au marché, on est allé distribuer des flyers, on a fait la soupe tous les jours ensemble, on mettait la table, enfin, on a fait des choses de fou et on ne pensait pas qu'ils étaient capables. Donc la capacité, et ça c'est vraiment la recherche éthique, de dire je ne m'occupe pas d'un malade avec une perte d'autonomie, je m'occupe d'une personne avec une capacité. Je termine, j'ai dépassé mon temps. La question de l'EHPAD de demain, c'est aussi la question de l'accomplissement professionnel de nos salariés, l'attractivité des métiers, mais ça j'en passe parce que voilà. Et puis la dernière, pour terminer, l'EHPAD de demain, en tout cas le centre du bienveillir, je ne sais pas comment on l'appelle, c'est la question de l'inclusion. Aujourd'hui, nos malades, j'étais contente que Madame Azéma me dise, mais moi j'en ai parlé à mes proches, je disais que mon mari était malade, parce que la maladie, on la cache, parfois ils sont en EHPAD, parfois on ne rentre pas dans nos EHPAD, on a peur d'y rentrer, et ben, il faut inclure la société, faire société avec nos malades qui sont en EHPAD, donc ça veut dire inclure les familles, l'intergénérationnel, mais aussi la culture et l'art. Donc voilà, j'ai essayé d'être rapide, mais je ne sais pas si j'ai...
Merci infiniment. On a bien la parole. Très honnêtement, c'est une intervention passionnante. Peut-être que franchement, ça bouleverse, hein, ça secoue, parce que ça vient casser, comme on dit, des paradigmes. On n'arrête pas de parler de médicalisation des EHPAD. Dire qu'il en faut beaucoup plus que dans l'état actuel, malheureusement... Vous êtes en train de dire que peut-être que les EHPAD de demain, c'est peut-être moins professionnel de santé, d'une certaine manière, parce qu'on a vu que finalement, vos artistes trouvaient leur place et avaient un vrai rôle. Est-ce que demain, si on doit envisager, ils n'ont pas tous des maladies somatiques, etc. Donc on n'arrête pas de le voir par le prisme du curatif médical, mais ce que vous présentez, c'est quand même...
On a globalement des profils de résidents qu'on accueille dans nos EHPAD depuis 10 ans qui a évolué. On a effectivement des résidents qui arrivent beaucoup plus atteints dans la maladie à des stades sévères et beaucoup plus dépendants dans la maladie. Donc on a vraiment cette médicalisation qu'on devra accueillir. Cependant, probablement que les EHPAD pour accueillir des patients en stade modéré de la maladie ou débutants, voire en sévère, ne répond pas aux critères de médicalisation. Moi, je ne suis pas pour pas médicaliser les EHPAD, encore une fois. 82% de nos établissements, enfin, ça c'est des chiffres que je vous donne chez Elena, mais qui sont globalement représentatifs en France, hein. 82 à 90% de nos malades décèdent en EHPAD. Donc on fait de l'accompagnement soins palliatifs. On a une médicalisation de plus en plus poussée dans nos EHPAD, mais il faut la rendre invisible. Parce que rendre demain nos EHPAD du post-SSR, des soins de suite, du sanitaire, on perdra le sens même de nos professionnels. Qu'est-ce qui fait que je suis soignant? Je ne suis pas soignant pour médicaliser à outrance mon accompagnement. Je suis soignant parce que j'ai le sens dans la relation à l'autre. Donc, réhumaniser nos EHPAD, c'est mettre au centre le lieu de vie avant la médicalisation et rendre invisible cette médicalisation. Mais on ne pourra pas faire contre.
Ouais. Et quid de la sécurité aussi? C'est assez troublant, ça, parce que c'est vrai qu'on essaye de sécuriser autant qu'on peut. Et vous démontrez, parce qu'on
alors, voit, c'est quand même pas des... J'ai passé ma matinée ce matin à expliquer un peu à des soignants sur le fait que quand on est confronté à la maladie, moi je suis ravie d'avoir été confrontée à la maladie d'Alzheimer jeune dans mon parcours professionnel, parce que ça m'a appris beaucoup d'humilité, beaucoup de re-questionnements sur ma pratique professionnelle. Hein, donc c'est de me dire, on se plante toujours avec des malades d'Alzheimer, on n'arrive pas, on peut dire il y a un diagnostic, un traitement, voilà je traite, je mets une ordonnance, c'est comme ça qu'on apprend quand on est médecin. Et puis finalement on se rend compte que le malade est au monde complètement différemment, il est au monde sur la sensorialité, sur l'émotion, et qu'il a besoin de beaucoup d'autres choses que du médicament ou éventuellement de la médicalisation. Après le problème c'est comment on accompagne la maladie. Aujourd'hui, nos autorités tutelle, l'évaluation HAS, les ARS vont sécuriser à outrance, parce que finalement c'est le job de l'EHPAD de sécuriser. Mais en fait, je pense que il faut à un moment donné changer le prisme, parce que vendre l'EHPAD comme un lieu sécur, c'est mentir à tout le monde. Un résident qui chute à domicile chutera en EHPAD. Un résident qui a des risques de fugue à domicile, il fuguera en EHPAD. Enfin, fugue, même si j'aime pas ce terme du tout. C'est globalement, c'est d'accepter le risque en accord avec les aidants, parce qu'ils ont une place importante. C'est accepter le risque d'être non sécure, mais d'accepter la liberté. Et cette question liberté versus sécurité, elle est essentielle dans nos communications, que ce soit à domicile ou en EHPAD, hein, c'est la même chose. C'est qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on veut privilégier, la sécurité du malade. Je prends l'exemple tout bête et ça va vous parler, on en a parlé ce matin. Le patient qui déambule, hein, qui va déambuler, parce que c'est anxiolytique, il va déambuler pendant 10 heures. Il a des risques de chute, il va chuter. Est-ce que je vais mettre une contention pour éviter qu'il chute ? Et là, j'enfreins et je contrains la liberté. Ou bien, ce qui prime pour moi, c'est la liberté et il va chuter. Et ça, il faut vraiment collectivement le porter avec les familles, avec les professionnels, et de dire, on a fait le choix que ce patient prendra la contention ou pas. Je ne sais pas quel est le choix, il n'y a pas de bon choix. Mais de dire, on ne mettra pas la contention, mais on prend collectivement le risque qu'il chute. Vous voyez, c'est des exemples tout bêtes.
C'était cette notion de risque qui tend à disparaître aujourd'hui dans nos sociétés.
Exactement.
Et peut-être aussi appuyer sur un point qui est intéressant. Vous montrez, vous l'avez dit, hein, c'est clair, il y a malheureusement une forme de rebond après. Après, malheureusement, le retour à la structure d'origine. Est-ce que si on extrapole, ça veut dire que lorsqu'on propose aujourd'hui à des patients en EHPAD, vous me voyez venir, ces moments divertis, on risque de produire un peu l'inverse de ce que l'on veut.
C'est une vraie question qui s'est posée. Avant qu'on parte, les soignants, les professionnels nous ont dit « Mais oh, quand ils vont rentrer, ça va être l'horreur. » Alors d'ailleurs, les soignants eux-mêmes, hein, les professionnels, quand ils sont rentrés, c'était l'horreur. Hein. Après, ça nous arrive tous. Hein. On part en vacances sur la Côte d'Azur, on est super bien, il fait beau, et puis on rentre au travail, et c'est l'horreur. Donc voilà, il faut relativiser aussi hein, à un moment donné. Donc c'est posé la question de ces séjours qu'on fait tous. En fait, cette étude, elle nous questionne sur effectivement... Alors, c'est encore une question éthique, je suis désolée. Est-ce que c'est bien de leur avoir proposé 15 jours, même s'ils vont un peu moins bien au retour, mais au moins, ils ont eu 15 jours super ? Ou est-ce qu'on ne leur fait pas profiter de ce moment ? Parce que le risque, c'est deux. C'est risque versus... C'est des vraies questions. En tout cas, c'est poser la question de ce qu'on a vécu là, enfin, ce qu'ils ont vécu, parce que moi, j'ai vécu une petite partie. Ce qu'on a vécu là, est-ce que c'est reproductible ? Ça, c'est une bonne question. Hier, il y avait les professionnels qui ont dit... On bossait 18 heures par jour, on était comme ça, on était rincés, c'était génial. Si on me demande de retourner, j'y retourne. Et je leur dis, mais si on me demande de retourner ça, mais toute ta vie, c'est-à-dire tu vas bosser comme ça tout le temps, est-ce que tu es OK ? Il me dit, non, c'est pas tenable. D'accord ? Donc en fait, on a vécu dans une espèce de bulle qui n'est pas reproductible. Hein ? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de biais. Mais par contre, qu'est-ce qu'on en sort ? Et c'est toutes ces questions que je pose là. Hein ? C'est les questions qu'on doit avoir collectivement sur... Collectivement avec vous, hein. C'est-à-dire que je pense que les collectifs de famille, les aidants, les malades, les professionnels de tous bords doivent se poser ces questions éthiques de lieu de vie qui sont transposables au domicile.
Oui, oui, bien sûr. Vous avez le micro.
Oui, il y a un intervenant précédent qui disait qu'en France, semblait-il, on avait une approche très institutionnelle. Alors moi, je prends ça pour, par exemple, l'organisation des EHPAD. Donc, première question, est-ce qu'il y a des pays où on est beaucoup plus ouvert, plus décentralisé, moins jacobin ? Parce que finalement, vous disiez au début, c'est fou, cette situation. Mais moi, j'ai vécu un passage en EHPAD de mon papa. Oui. Je peux vous dire que ce que je trouve fou, c'est l'EHPAD. Oui. Je trouve que c'est inhumain.
Vous dire. Alors, très
mais c'est bien. Vous avez raison. En fait, vous êtes le porte-parole de 90%. Vous êtes le porte-parole de 90% de la population générale.
C'est ce que je ressens.
Alors, il y a plusieurs questions, enfin plusieurs réponses. La première, c'est existe-t-il d'autres types d'accompagnement dans les pays, et notamment anglo-saxons et du Nord, la Finlande et tout ça est beaucoup plus en avance, d'accord ? Effectivement, en France, on est très institutionnalisé. On a un EHPAD qui s'appelle l'EHPAD des Landes, le village des Landes, tout le monde a dû en entendre parler, probablement, c'est un village Alzheimer dans les Landes, qui est un peu atypique de ce type-là, mais globalement, il n'est pas reproductible parce qu'il y a deux bénévoles et un soignant pour trois malades. Donc sans bénévoles, on n'y arrivera pas, mais peut-être c'est une piste. On a plein d'autres expérimentations, au Québec notamment, sur Nicole Poirier, sur des vies d'habitat partagé. Voilà, donc, en dehors, et ça existe en France, hein, des établissements Nicole Poirier. Donc, par contre, j'entends ça. Et moi, je suis gériatre, autant vous dire que j'ai travaillé au domicile. Donc, je prône le domicile, le maintien à domicile. J'ai tendance à penser que parfois, on maintient trop le domicile, parfois, au risque de mettre en danger. L'EHPAD, c'est un lieu d'expertise. Vous avez une ergothérapeute, vous avez un médecin gériatre, vous avez une psychomode, vous avez de l'expertise, ok ? Idéalement. Mais qu'est-ce qu'on fait de toutes ces personnes âgées, polypathologiques, dépendantes, quand le domicile n'est plus possible ? Il faut bien qu'on ait des EHPAD. Aujourd'hui, où peuvent-elles vivre si elles ne peuvent pas rester à domicile ? Il en faudra toujours. En fait, il faudrait avoir ouvrir la porte de nos EHPAD. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans, 15 ans, 18 ans. Le profil des résidents qu'on accueille n'est plus du tout le même. Aujourd'hui, des aidants qui, à un moment donné, sont dans la culpabilité de dire « mon proche va rentrer, j'en peux plus ». Il n'en peut plus pour des problèmes comportementaux, pour des problèmes de grande dépendance, pour des problèmes de fin de vie. Si on n'avait pas les EHPAD, qu'est-ce qu'on fait ? Ils sont où, ces malades ? Donc l'EHPAD, il y aura toujours besoin d'EHPAD. Et j'entends que c'est très institutionnalisé, c'est très franco-français. On fait des choses ailleurs, on en fait un peu en France. Et cette étude, elle dit comment collectivement on repense nos EHPAD. On réinjecte de la vie au lieu du soin. Mais on n'aura pas le choix que de s'occuper de ces malades qui ont besoin de soins et d'expertise.
Excusez-moi pour cette question basique, pardon, mais est-ce qu'on a une évaluation médico-économique de la faisabilité
Ah, là, ce n'est pas du tout faisable. Hein.
Ce n'est pas du tout
reproductible en termes d'effectifs. Ça équivaut au village des Landes. Comment il fonctionne, le village des Landes ? Il a des subventions territoires, de la ville, de la commune. Il est subventionné, le village des Landes, probablement de manière non pérenne. Et le village des... c'est la même chose. Hein. Donc ça existe une fois en France. Il va y en avoir un autre en Bretagne, Ifignac. Donc, un, c'est pas faisable, sauf s'il y a un accompagnement financier des collectivités locales. Et puis, c'est pas faisable quand on n'a pas du bénévole, c'est-à-dire un engagement de la société face à ces malades. C'est-à-dire, qu'est-ce que demain ? C'est pas une question sociétale, la question du sujet âgé. Enfin, moi, je le pose. Hein. Parce que pour le coup, aujourd'hui, quand on parle de vieillissement, on parle uniquement de médicalisation, comme si vieillir, c'était une maladie. Or, vieillir, c'est sociétalement ce qu'on va tous partager, je l'espère, pour vous. Et qu'à un moment donné, la question du vieillissement, est-ce que ce n'est pas une question sociétale qu'on doit assumer ensemble ? Et donc, la question des bénévoles en EHPAD se posera. Et là, on pourra le reproduire.
Elena, c'est plusieurs EHPAD ?
Oui, 49.
D'accord. Et ces EHPAD qui ne prennent que d'Alzheimer ?
Alors, les
que je comprenne.
Non. Alors, les résidents d'où viennent ces EHPAD, viennent de deux établissements Île-de-France qui sont exclusivement Alzheimer. On a un autre établissement à Nantes qui est exclusivement Alzheimer, mais sinon, l'ensemble des autres établissements sont ouverts à la fois aux Alzheimer et non aux Alzheimer.
D'accord, parce qu'il y a beaucoup d'EHPAD qui sont Alzheimer et pas Alzheimer. Enfin,
c'est ça.
Hein, d'accord.
Bon. On a trois établissements dédiés.
D'accord. Je m'occupe d'une association qui gère 87 EHPAD. On fait l'EHPAD à domicile.
Oui, le CRT. Enfin, ouais. En fait, c'est tout ce qui se jouait tout à l'heure sur la présentation de l'accueil de jour et tout ça, c'est intéressant parce que la question de sortir plus expert, plus ouvert de l'EHPAD, la question de l'inclusion, du rayonnement, d'aller au domicile et de faire de l'EHPAD à domicile, l'EHPAD hors des murs, enfin tout ce qu'on appelle l'EHPAD hors des murs, c'est exactement ce qu'il va falloir faire demain. On n'aura pas le choix. Mais il faudra quand même répondre à la question de ces patients polypathologiques éventuellement en soins palliatifs, soins de vie, qui s'en charge si ce n'est pas l'EHPAD.
Jusqu'où le domicile ?
Moi, j'étais... Allez-y, pardon.
Oui, non, mais d'accord.
Je peux parler des heures.
Oui. Mais quand on parle effectivement des coûts financiers, eh bien, financièrement, c'est plus intéressant d'avoir un EHPAD à domicile et de maintenir la personne chez elle que d'avoir la personne en EHPAD. Économiquement.
Sauf si les limites de l'EHPAD à domicile, enfin de l'EHPAD hors des murs, les limites, c'est éventuellement un malade qui vit seul avec des troubles comportementaux la nuit. En fait, c'est la seule configuration, c'est ce que disait Madame Azéma, dire sans aidants, en disant on n'aura pas le choix de s'occuper de la santé des aidants parce que sans les aidants, ça ne tiendra pas. Elle a complètement raison. Un malade seul, sans aidants, à domicile, ça ne tient pas avec les pas d'or des murs.
24 heures sur 24. Surtout, on n'a pas parlé des troubles du sommeil là, mais on sait qu'ils vivent la nuit souvent à cause des décalages. Donc,
dans le film, on le voit beaucoup qui vivent la nuit.
Ils vivent la nuit et ça, il va falloir bien du monde la nuit. Bon,
pardon.
Merci, c'était passionnant. Je crois que ça, les questions est vraiment qui. Juste une question, qui aura envie d'aller voir le film en... Ah oui. Vous n'êtes pas. Bah écoutez, je pense qu'on sera nombreux. Vous pouvez ramener ça au réalisateur. Merci infiniment, docteur Joitel.